Bonjour à tous, déjà pour commencer. J'en ai vu un certain nombre, mais
Mmh.
pas tout le monde probablement. Nous continuons un petit peu notre aventure dans la première lettre aux Corinthiens. Donc, ce n'est pas moi qui ai à cœur nécessairement quelque chose, même s'il y a des choses auxquelles j'ai à cœur dans ce message. Mais c'est tout simplement la suite de ce qu'on examine dans la révélation de Dieu. Et donc, nous sommes aujourd'hui déjà au chapitre 11, mes amis. Vous avez fait un grand parcours. Et on verra ce matin les versets 2 à 16. Alors, j'ai trouvé un titre, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'était avec un brin d'humour quand même, j'espère que vous comprendrez. Porter le chapeau ou le pantalon sans se prendre la tête, ça pourrait être le titre de ce message. Alors, on aurait pu mettre plein d'autres titres beaucoup plus appropriés, mais vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce titre. Alors, en introduction, 1 Corinthiens 11 présente en fait deux thèmes. Donc, j'avais déjà un choix, mais pas vraiment un choix en fait. Le premier thème est consacré à ce que l'on appelle le voile de prière, et le deuxième est consacré à la scène. J'aurais pu enjamber allègrement mon premier pour traiter mon second, mais mon tout n'y serait pas. Parce que toute l'Écriture, comme vous savez, est inspirée de Dieu et utile pour nous. Donc, il n'est pas possible de négliger un texte quelconque de l'Écriture. J'ai donc décidé de vous le présenter ce matin, 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16. Ce texte est beaucoup plus pertinent pour notre temps qu'il n'y paraît. C'est souvent quand on commence à se dire, je vais quand même aller voir, même si au départ ça m'inspire pas beaucoup, je vais quand même aller voir ce qu'il y a. Et même s'il présente plusieurs difficultés, comme nous verrons dans quelques instants, notre siècle connaît une confusion de plus en plus grande, non seulement sur le plan spirituel, avec une multiplicité de religions et de croyances, mais aussi une grande confusion des genres, une confusion des rôles entre hommes et femmes en particulier, une guerre sans merci entre les sexes avec un féminisme ultra, des violences conjugales, des inégalités hommes-femmes toujours criantes aujourd'hui, un certain machisme rampant et l'irrespect envers l'autre sexe, entre autres, et beaucoup d'autres choses. Ce qui va nous amener aussi peut-être à une certaine pitié, une certaine empathie pour notre monde qui est perdu, qui est égaré à bien des égards. Ce texte comporte malgré tout certaines difficultés. Et l'apôtre Pierre nous avait déjà prévenu dans sa deuxième lettre au chapitre 3 et au verset 15 et 16, où il dit, notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens. Alors, j'espère franchement que ce ne sera pas mon cas ce matin. Enfin, vous pourrez le dire à la fin de cette prédication et peut-être me redresser si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes. Alors, nous allons donc essayer d'y voir un peu plus clair, tout en acceptant nos limites. D'abord, l'apôtre Paul pose une question qui est un peu le verset clé de ce texte. C'est le verset 13. Il dit, jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? Bon, déjà, cette question nous pose question à nous aussi. On se dit, bon, où est-ce qu'il veut nous emmener? Parmi nous, chacune des femmes qui est dans l'Église fait comme elle l'entend, selon sa propre conviction. Et cela semble convenir à tous, au moins pour l'instant. Et bon, je pense que c'est une bonne pratique. Mais peut-être certains diraient que ce n'est pas une bonne pratique. Dans d'autres assemblées, il y a des directives plus strictes qui sont observées. Alors, que faut-il en penser en 2021? Comment faire la part des choses entre ce qui est culturel et ce qui est intemporel, ou ce qui fait partie des fondamentaux? Bref, porter le chapeau ou le pantalon sans se prendre la tête. Nous allons traiter le sujet en trois temps. D'abord, les intentions de l'apôtre Paul qui sont révélées dans ce texte. Ensuite, le contexte de l'époque. Et enfin, les fondamentaux. Et on verra à travers tout ça qu'il y a certaines difficultés qu'on va être obligé d'accepter. C'est un peu frustrant. Mais beaucoup de théologiens sont frustrés, comme moi, comme vous, que peut-être certains éclairages nous manquent ou je ne sais pas. En tout cas, on va essayer d'en extraire l'essentiel pour nous. Alors d'abord, premier point, nous allons voir les intentions de l'apôtre Paul. Sûrement pas, en tout cas, une approche légaliste. Paul ne donne pas de directives imposées ici. Un verset qui détient peut-être une petite clé, c'est le verset 2, où il dit « Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. » Et le mot « instruction » veut dire « tradition ». Alors, ce mot m'a interrogé parce que faut-il comprendre des instructions qui sont liées aux usages culturels de l'époque ou tout simplement la transmission orale d'enseignements qui peuvent être vus comme intemporels? C'est la grande question ici. Parole vivante de Alfred Kuhn traduit cette fin de verset en disant « respectant les règles que je vous ai données et en maintenant fidèlement les traditions telles que je vous les ai transmises. » Donc, il redonne bien le mot littéral de ce texte. Alors, derrière ce mot, qu'est-ce qu'il faut mettre? Là est un peu la question. Il y a peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, Paul, ici, son intention, c'est un appel à la réflexion. Il ne donne pas une directive imposée comme une loi, mais un appel à la réflexion. Et littéralement, il dit « Jugez-en par vous-même, est-il convenable que la femme soit découverte pour prier Dieu ?» On verra dans quel contexte. Au verset 16, il dit « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, les églises de Dieu non plus. » Littéralement, si quelqu'un estime être un contestateur, si quelqu'un veut contester ce qu'il enseigne, il n'est pas question pour Paul d'entrer dans une polémique ou un débat d'opinion. Paul va présenter les fondamentaux et il va inviter à la réflexion autour de ces fondamentaux. Et c'est peut-être là le défi des églises de toutes les époques, c'est qu'ils ont été face aux fondamentaux de Dieu et à chaque fois l'Église a dû s'adapter et non pas tomber dans un légalisme vestimentaire, par exemple. Notons un détail significatif. À aucun moment, le mot voile n'apparaît. Ça va peut-être vous surprendre. Mais quand on examine les expressions utilisées dans ce texte, on trouve la tête couverte ou la tête découverte ou la femme couverte ou la femme découverte, une marque d'autorité sur la tête. Et encore dans cette expression, le mot marque n'est pas dans le texte original. Le texte original dit une autorité sur la tête. Et puis, le texte dit aussi « une chevelure en guise de vêtement ». Vous avez peut-être dans votre Bible une chevelure en guise de voile. Bon, on verra pourquoi le mot « vêtement » peut-être tout à l'heure. La nature de cette couverture n'est pas clairement définie, ce qui laisse toute une palette de possibilités. On sait seulement que la question est posée dans le cadre des réunions d'église, de la prière et de la prophétie. Et vous savez qu'au moment où Paul écrit, le canon biblique n'est pas encore abouti, la révélation de Dieu à travers l'Écriture. Et il s'agissait de révélations individuelles, parfois sujettes à caution dans le cadre du culte, par exemple. On sait aussi que la tête était couverte, mais pas la face, d'où l'idée du chapeau, même au XXe siècle. L'idée maîtresse, c'est une marque de l'autorité dont la femme dépend. Alors, la question pour nous en 2021, existe-t-il une marque visible de subordination? Ça, c'est la grande question pour nous. Deuxièmement, le contexte de l'époque. Alors ici, on pourrait parler de valeurs culturelles qui ont toujours été mentionnées dans la Bible. Et ce n'est pas pour ça que ces valeurs culturelles deviennent des valeurs normatives pour nous. Alors ça, c'est une question importante. En Grèce, le bon usage exigeait que la femme porte un voile en public, mais il ne s'agissait pas d'un voile intégral. On retrouve cette coutume chez les Juifs du 1er siècle et les Romains. C'était souvent une partie du vêtement, je vous en parlais il y a une seconde, le vêtement extérieur que l'on remontait sur la tête comme une sorte de capuchon. Ce voile, entre guillemets, lui garantissait le respect et la sécurité dans la rue. C'était le signe qu'elle avait un mari ou un père si elle n'était pas mariée, et tout agresseur savait d'ores et déjà qu'il aurait à en découdre avec le mari ou le père. Dans les lieux de culte, les coutumes variaient. Les Romaines et les Juifs se couvraient la tête. Les femmes grecques, devenues chrétiennes et donc libres, priaient tête nue comme les hommes. On peut comprendre cette aspiration à l'égalité. Dieu n'a jamais considéré la femme comme inférieure à l'homme. Mais le plus ennuyeux, c'est qu'elle rejette du même coup non seulement ce morceau de tissu qui montrait une subordination, mais elle rejette toute idée de subordination. Et c'est ça le problème auquel Paul veut s'attaquer, parce que ça pose un réel problème dans l'Église et même dans la société. Aujourd'hui, cette idée est largement répandue de rejeter l'idée de subordination, où il y a une confusion, là encore, entre la subordination et l'infériorité d'une personne. On préfère, dans notre société, souvent porter le pantalon plutôt que le chapeau. D'où mon titre du départ. Paul est obligé de rappeler les fondamentaux dans un tel contexte, parce que d'un côté, dans l'Église, vous pouviez avoir des gens d'origine juive ou romaine et d'autres grecs, et les uns et les autres devaient se regarder un peu en chien de faïence, voyant une femme ayant la liberté d'entrer dans l'Église et de prier la tête nue. Ici, on va voir par contre des valeurs intemporelles, les fondamentaux. Ce ne sont pas des valeurs culturelles, ce sont des valeurs intemporelles qui semblent s'appliquer à tous les temps. D'abord, l'échelle d'autorité, enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça, parce que avant ça, j'appelais la chaîne d'autorité, mais je ne trouvais pas ça très positif. L'échelle d'autorité au verset 3 nous est donnée. Paul dit: « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Alors déjà, la notion de chef, quand on a vécu dans un monde du travail, le mot chef est extrêmement péjoratif et parfois même repoussé, rejeté, moqué. En fait, ça veut dire la tête. Le chef, en grec, c'est le mot tête, le mot képhalé, pour vous qui êtes instruits en grec, qui a donné encéphale ou encéphalogramme. On dit être à la tête d'une entreprise, par exemple. Christ est à la tête de son Église, il est même la tête de son Église. Il n'y a pas de notion de supériorité en matière. En tout cas, moi, je ne me suis jamais senti inférieur à mon patron. Je n'ai jamais eu de complexe, mais par contre, je lui devais la subordination. Tout homme, qu'il le veuille ou non, est subordonné au Christ. Christ est le chef de tout homme. Et c'est à lui qu'il va rendre des comptes. En même temps, Christ est un bon berger, est un bon dirigeant. On a rappelé la bienveillance de Dieu tout à l'heure. La femme mariée est subordonnée à son mari et la fille non mariée à son père, du moins tant qu'elle réside sous son toit et dépend de lui pour sa subsistance. Elle est sous sa responsabilité, elle est sous sa protection, elle est sous ses bons soins. Ce n'est pas une idée de pression, d'obligation, c'est vraiment un rapport d'autorité qui s'applique. Ça ne veut pas dire tu te tais, tu es soumise, tu n'as rien à dire. Ce n'est pas du tout ça que Dieu veut dans le domaine de la subordination, mais cette subordination existe. Et Dieu nous précise dans d'autres textes, en Éphésiens par exemple, ce qu'il entend par subordination, dans quel contexte il l'applique. Chapitre 5 de Éphésiens, j'ai résumé ici les versets 25, 28 et 29. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est pas rien. Il s'est donné lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Quel défi, mes amis, quel défi, messieurs les maris. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. La femme n'est pas son objet, ni sa chose, mais son aide semblable, sa moitié, sa princesse, celle qu'il veut aider à parvenir à la stature parfaite de Christ, l'épanouissement absolu. Voilà le contexte de cette chaîne d'autorité entre Christ et l'homme, l'homme et la femme, et on va voir que Christ lui-même est le modèle d'époux et de subordonné, puisque le texte qu'on vient de lire dit que Dieu est le chef de Christ. Ça peut un peu nous étonner, n'est-ce pas? Dieu est le chef de Christ, ce qui ne remet pas en cause leur égalité, pas plus que la subordination de la femme envers son mari est un signe d'inégalité, pas du tout. 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28 nous dit ceci. Dieu, sous-entendu le Père, en effet, a tout mis sous ses pieds, Christ. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose, c'est-à-dire le Père. Lorsque tout lui aura été soumis à Christ, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, le Père, afin que Dieu soit tout en tous. Parfois, on insiste tellement sur la divinité de Christ qu'on pourrait oublier que c'est le Père qui recherche des adorateurs pour lui-même. Dans Jean 4, quand Jésus s'adresse à la Samaritaine, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Que c'est le Père qui est au-dessus de tous, y compris de son propre Fils bien-aimé, dans cette échelle d'autorité, et ce qui ne remet pas en cause leur égalité, leur essence commune, leur essence divine commune. Dans Parole vivante de Alfred Kuhn, on a une traduction intéressante et je trouve qu'elle met en emphase un petit peu cette suprématie du Père. Dieu le Père sera pour tous et en tous le souverain incontesté et incontestable, centre et but unique de tout. Le Fils est à sa droite, mais le Père est sur le trône. Et même si le Fils est sur un trône aussi, le Père est quand même sur le trône suprême et il est le chef de Christ. Ça, il faut s'en rappeler. Il me semble que certains cantiques modernes ou certaines prières révèlent cet oubli envers le Père. Jésus ne nous a-t-il pas montré comment prier? Qu'est-ce qu'il dit? Notre Père. Et Jésus-Christ et l'Esprit Saint ne sont-ils pas ceux qui intercèdent pour nous quand nous prions le Père? Jésus est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et l'Esprit Saint, quand on ne sait pas ce qu'il convient de dire dans nos prières, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Voilà tout à fait comment se passe le fonctionnement, on va dire, de la triunité de Dieu. Après, on trouve un principe assez mystérieux dans ce texte. Ça fait partie des difficultés. 1 Corinthiens 11, versets 4 à 5. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef, c'est-à-dire Christ. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle, l'homme. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. » Donc, je rappelle que nous sommes dans le contexte grec de Corinthe, et à l'époque, avoir la tête rasée pour une femme était un signe de disgrâce, comme celui infligé aux prostituées. Et c'était aussi une manière de répudier l'autorité de tout homme, mari ou père, comme une sorte d'émancipation. Paul estime que dans la culture ambiante, abandonner le couvre-chef revient à la même chose qu'être rasé. Elle déshonore ainsi son chef, l'homme. C'est une façon de revendiquer son indépendance de briser les chaînes d'autorité établies par Dieu. C'est une attitude, ce n'est pas simplement une histoire de couvre-chef ou de morceaux de tissu. Et puis, deuxième mystère aussi, c'est en quoi l'homme qui prit la tête couverte déshonore Christ. Dans le contexte corinthien, apparemment, si un homme, en tant que subordonné de Christ, avait couvert sa tête pour prier, c'eût été une façon de montrer que dans cet exercice, il était soumis à un autre homme et non directement soumis à Christ. Alors, on va examiner maintenant les arguments de Paul. Pourquoi l'homme avait donc le droit et même le devoir de prier la tête nue? 1 Corinthiens 11, 7 nous dit « L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. » Adam est le sommet de la création. Ayant été créé le premier, comme nous le rappelle 1 Timothée 2, 13, c'est Paul aussi qui écrit cette lettre, et dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26, il nous est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme, Adam, à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Adam est la fierté de Dieu, la gloire de Dieu, à un moment où la femme n'existe pas encore. Il est le responsable en direct avec Dieu, de tout le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder, selon Genèse 2, 15. Le premier Adam ayant échoué dans sa mission, c'est au Christ, le second Adam, venu réparer sa faute, qu'il va devoir rendre compte désormais. Il ne peut pas se cacher comme il l'a fait en Genèse 3, 8, quand Dieu le cherchait dans le jardin et qu'il avait peur, il s'est caché. Il ne peut pas reporter la faute sur un autre, comme il l'a fait en Genèse 3, 12, en disant « Mais c'est la faute de la femme que tu as mis à côté de moi. » Sa tête est nue devant Dieu. Elle n'est pas couverte. Il est en direct avec son supérieur hiérarchique, en quelque sorte. Il ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit, derrière un voile, derrière un chapeau, quoi que ce soit, ou derrière un mur. Il est nu devant Dieu. Sa tête est nue, non couverte. Alors, quelle est la position particulière de la femme selon Paul? Au verset 7 de 1 Corinthiens 11, toujours, la femme, elle, est la gloire de l'homme. La femme est la fierté de l'homme. Son vis-à-vis direct, son aide semblable, son allié. Et il y a une phrase que j'avais jamais trop soulignée dans mes études, mais quand, en Genèse 2, 23, juste après la création de la femme, Adam s'écrit ceci, « Voici cette foi, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. » Adam est fier de sa femme. « Voici celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. » Un être inédit, un être spécial. Vous, les maris, est-ce que vous êtes fiers de votre femme? Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Voilà celle qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi. La femme est la gloire de l'homme, la fierté de l'homme. Quand on rencontre des amis qui ne connaissent pas notre femme, on est fiers de présenter notre femme, celle que Dieu nous a donnée. En vis-à-vis, ça n'est pas, vous voyez que c'est loin de l'image du machiste. Hein? Au verset 8, Paul dit en effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. Elle est en Genèse 2, 23, elle a été créée dans un deuxième temps, spécialement pour Adam. Au verset 9, ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Elle n'a pas reçu la même responsabilité sur ses épaules et son rôle est d'aider l'homme dans sa mission difficile, de le seconder, il a besoin d'elle. Elle n'est pas une potiche pour agrémenter son quotidien. Elle a sa mission en harmonie avec celle de son mari. verset 11 nous dit « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Aujourd'hui, dans le monde, on voudrait nous faire croire qu'on peut se passer l'un de l'autre. Mais vous verrez que ça, c'est franchement un égarement total par rapport au plan de Dieu initialement prévu. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. La femme a besoin de l'homme, par exemple, pour féconder, et l'homme a besoin de la femme pour enfanter. Pas question de les diviser, de les séparer. Au verset 12, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. » Pas question de les opposer dans une sorte de militantisme, comme on voit aujourd'hui, ni d'inventer des tours de passe-passe pour se passer l'un de l'autre, avoir un enfant par PMA ou GPA sans accepter le vrai père ou la vraie mère de l'enfant. Voyez l'égarement qui peut nous conduire à une grande empathie, une grande pitié par rapport à notre monde ambiant, et ça ne peut que nous encourager à faire connaître l'Évangile, à faire connaître ce Dieu d'amour, à faire connaître ce plan merveilleux pour l'homme et la femme, au lieu de les opposer, au lieu de détruire les couples, au lieu de militer l'un contre l'autre. Alors on sait que tout cela est venu par des excès, évidemment, c'est souvent comme ça, on réagit aux excès et ça se comprend historiquement. Alors il y a un autre mystère qui apparaît dans ce texte, c'est être couverte à cause des anges. Alors là aussi, on va être un petit peu frustré parce qu'il n'y a pas d'explication absolument certaines, ce ne sont que des tentatives d'explication. C'est un fait, on ne peut que l'accepter par la foi, mais c'est un argument un peu mystérieux. Alors, au verset 10, il dit « Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. » Littéralement, avoir une autorité sur la tête. Rappelons que nous sommes dans le contexte des réunions d'église. Les anges seraient-ils offusqués qu'une femme prie sans être couverte? Éphésiens 3:10 nous dit « Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Est-ce qu'une attitude d'insubordination aurait discrédité la sagesse de Dieu manifestée ou censée être manifestée dans l'Église? L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 3 et verset 22, nous dit ceci, « Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Depuis qu'il est allé au ciel, les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Les anges verraient d'un mauvais œil qu'une chrétienne n'ait pas une attitude de subordination alors que eux se sont soumis quelque part, ont accepté cette subordination, alors qu'ils sont puissants en gloire par rapport aux hommes de chair et de sang que nous sommes. Refuser la subordination à son mari revient à refuser l'autorité de Christ lui-même. Les anges sont spectateurs de ce qui se passe dans l'Église. Alors, ça peut être une explication. Ils louent Dieu aussi, on sait dans l'Écriture qu'ils participent en quelque sorte au culte permanent d'adoration de Dieu. Alors, il y a eu d'autres tentatives d'explication qui existent, mais qui ne sont pas très convaincantes. La convoitise des anges par rapport aux femmes qui seraient dans la salle, ou les anges mauvais aussi qui convoiteraient des femmes et qui auraient besoin de voir une marque d'autorité dont elle dépend. Ou d'autres qui disent le mot « ange » dans l'Apocalypse est utilisé pour messager, messager comme les anciens ou les pasteurs. Qui auraient besoin de voir un signe d'autorité sur la tête des femmes qui sont dans l'Église. Franchement, c'est difficile à comprendre et à admettre. En tout cas, il y a aussi un argument naturel, là aussi qui est un peu ambigu dans la bouche de l'apôtre Paul. Au verset 14, il dit « La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter ?» parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Et encore là, le mot voile est traduit vêtement. C'est vêtement. Contrairement à certaines représentations artistiques, où on représente les hommes avec des cheveux longs comme Jésus, À l'époque de Paul, les hommes et probablement Jésus lui-même avaient plutôt les cheveux courts. Contrairement à l'homme fréquemment atteint de calvitie, malheureusement, pas tous, il y en a qui ont la chance de pas l'avoir, mais la femme a généralement une chevelure généreuse. Même de nos jours, une femme rasée ne passe pas inaperçue, malgré une grande liberté au niveau de la longueur des cheveux. Il n'est pas question de définir une longueur de cheveux adéquate. Il y a malheureusement des milieux chrétiens qui sont assez rigoristes dans ce domaine et ça n'a aucun sens. On retombe dans du pharisianisme avec l'histoire des franges et tout le reste. C'est l'attitude du cœur, évidemment, qui importe avant tout. On peut avoir la tête couverte avec quoi que ce soit et avoir un cœur insoumis. Une femme peut se taire dans l'église et tirer les ficelles dans le couple. Pourquoi demander à la femme un couvre-chef supplémentaire si la nature lui a fourni une chevelure en guise de voile ou en guise de vêtement pour couvrir sa tête, pour mettre à la place du voile? L'argument de Paul reste ambigu et probablement très lié au contexte local. Mais tout ça est un peu mystérieux, je vous l'avoue. Alors, pour nous, quelle conclusion en tirer? C'est quand même avant tout, un texte assez difficile. J'espère que vous ne serez pas trop frustrés de ne pas découvrir la réponse à ces mystères. Mais retenons au moins l'intention de Paul, qui n'est sûrement pas une approche légaliste, mais un appel à la réflexion en évitant toute polémique. Une question simple, jugez-en par vous-même, est-il convenable que la femme soit découverte pour prier Dieu? Que chacun se fasse sa conviction et que nous puissions respecter la conviction des unes et des autres. Pour ce qui est du contexte, rappelons-nous qu'à Corinthe, c'était une liberté nouvelle, mais qui était portée à un niveau d'émancipation et d'insubordination féminine contraire aux fondamentaux de Dieu. Et quant aux fondamentaux, je vous rappelle cette échelle d'autorité qui est immuable. L'homme doit prier Dieu la tête nue. Alors ça, c'est pas trop difficile à mettre en pratique. Et au contraire, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. S'agit-il d'un couvre-chef en quelque chose, en tissu ou je ne sais quoi d'autre, ou simplement sa chevelure naturelle, à condition qu'elle ne soit ni rasée ni tondue, et avec en tout cas l'attitude de subordination qui convient. Alors, notre contexte en 2021, il n'existe pas malheureusement culturellement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement d'ailleurs, il n'existe pas culturellement un couvre-chef qui représente une marque d'autorité dont une femme dépend. Même l'alliance que l'on met à l'annulaire de la main gauche, par exemple, est un accessoire beaucoup trop discret. Je sais qu'il y a des femmes qui le mettaient bien en évidence quand elles prenaient le train ou je ne sais quoi, pour bien faire comprendre qu'elles étaient mariées. Mais bon, ça reste quand même très discret. Et quant au chapeau, il est plutôt un élément de coquetterie. Donc, difficile à dire que prendre comme couvre-chef. Que ferait une femme, par exemple, célibataire, autonome, ou une personne veuve ou séparée? Quelle est l'autorité dont elle dépend quand elle est dans l'Église? Évidemment, peut-être on peut dire, ça dépend plutôt du pasteur et des anciens qui représentent une autorité, mais qui représentent une autorité aussi pour les hommes. Donc, vous voyez la difficulté. En tout cas, la chevelure naturelle demeure quand même quelque chose de significatif dans ce que Dieu a fait pour la femme. Faut-il ajouter quelque chose? Je ne peux pas vous répondre. Et surtout, ce qui compte, évidemment, c'est l'attitude du cœur. Et l'attitude du cœur se révèle par mille et une petites subtilités. Si vous avez un peu l'habitude, vous verrez que même dans les couples où on crie haut et fort que le mari est le chef de la femme, parfois vous voyez dans des petites choses qu'il n'en est pas ainsi. Donc, que chacun, évidemment, s'examine, c'est ce que Paul nous demande de faire. Alors, c'est aussi pour nous ce matin, pour finir, que le temps passe, c'est l'occasion pour nous de réaffirmer le plan de Dieu. Évidemment, à travers toutes ces questions, nous retrouvons la notion de couple hétérosexuel ou le célibat qui sont bâtis sur l'exemple de Christ avec son Église. On y voit également deux genres. Il n'y a pas confusion de genre. Il y a l'homme et il y a la femme. Il y a aussi l'égalité entre les deux sexes. Il y a subordination, même en cas de supériorité intellectuelle ou professionnelle de l'épouse. Mais il y a aussi une grande empathie que nous devrions avoir et que je devrais avoir moi aussi pour les couples en difficulté, qu'ils soient dans l'Église d'ailleurs ou dans le monde, et aussi pour les personnes qui souffrent dans leur identité sexuelle. C'est quelque chose que l'on rencontre le plus souvent, des gens qui sont tellement malheureux dans leur corps d'homme ou de femme et qui, dans le monde, par exemple, vont changer de sexe, subir même une opération chirurgicale. Et combien Dieu doit être triste de voir une personne qui arrive à un tel degré de souffrance pour en arriver à une telle décision. Et je pense que ça ne peut que nous encourager, encore une fois, à prier pour notre monde perdu, à avoir compassion de ces égarements et peut-être d'apporter du réconfort et une vision du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, quel que soit notre sens. Et de rappeler aussi la subordination de la femme au mari, même s'il est non-croyant. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit dans sa première lettre au chapitre 3. Vous pouvez retrouver tout cela dans votre lecture personnelle. Je vais terminer maintenant par la prière, si vous le voulez bien. Notre Père bien-aimé, on veut ce matin encore reconnaître ta suprématie sur nous, même sur ton propre Fils. Et on veut te remercier vraiment d'avoir établi un plan aussi merveilleux pour que ton Église se porte bien, pour qu'elle grandissent dans l'harmonie, pour que les couples vivent dans l'harmonie, pour que les personnes, même qui vivent des difficultés, puissent trouver en toi toute la compréhension, toute l'aide pour vaincre ces difficultés. Seigneur, merci pour cette échelle d'autorité. Merci, Seigneur, pour toutes ces vérités qui nous aident à vivre selon ta volonté, Seigneur. Et on te prie pour notre monde, notre société, parce que nous y voyons tellement d'égarements, Seigneur, que nous te demandons d'avoir pitié et d'aider chacun à te connaître selon ton plan, selon ton appel, selon ta prédestination, selon ton élection, selon ta préscience. Seigneur, que tu attires des hommes et des femmes à toi et que tu guérisses aussi les cœurs et les corps brisés, Seigneur, par certains phénomènes, par certains égarements. Seigneur, on te demande que l'Église, nous puissions être pleinement compréhensifs, compatissants, et en même temps que nous restions fermes sur les fondamentaux que Dieu nous a rappelés. Et que tu donnes à chacun un plein discernement sur la façon dont il doit prier dans un culte public, dans le nom de Jésus. Amen.